soir, fin des prises hier jeudi de la visite en République démocratique du Congo du secrétaire général des Nations Unies et du président de la Banque mondiale sur fond des tensions dans le Nord Kivu. La République démocratique du Congo annonce le début de la construction en 2015 d'une centrale hydroélectrique la plus grande du monde à Inga sur le fleuve Congo. Baptisée Grand Inga, cette centrale qui sera construite en collaboration avec l'Afrique du Sud aura une capacité de production de 40 000 MW capable de desservir la moitié de l'Afrique en électricité. Tels sont les thèmes de ce soir dans la tribune de la presse. Sont avec nous dans cette émission Marcel Ngoï, l'éditeur du journal La Prospérité, c'est un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Marcel Ngoï.
Bonsoir Guy Maté.
Blaise Zainda, il est journaliste à la Radio-Télévision Digitale Congo, émettant depuis Kinshasa. Bonsoir Blaise Zainda.
Bonsoir Guy.
Et Alain Chouma, il est directeur de rédaction de la radio Kivu 1, émettant depuis Goma au Nord Kivu. Bonsoir Alain Chouma.
Bonsoir, bonsoir.
Bienvenue dans cette émission. Ban Ki-moon et Jim Yong Kim visitent la RDC sur fond des violences au Nord Kivu. La RDC annonce la construction du Grand Inga à partir de 2015 sur le fleuve Congo. Pour savoir comment la presse a analysé ces informations, écoutons cette revue de presse que nous propose Alain Irongo.
Bonsoir. La presse fait le bilan de la visite de Ban Ki-moon, notamment au niveau politique et militaire dans le conflit qui oppose le gouvernement congolais aux rebelles du M23. Pour le potentiel, brigade spéciale appuyée sur l'accélérateur. Il est curieux que le secrétaire général Ban Ki-moon, à l'étape de Goma, se ménage encore 2 mois supplémentaires pour rendre opérationnelle la brigade spéciale d'intervention. Pendant ce temps, le M23, appuyé par Kigali, se pavane en conquistador dans le Nord Kivu. Au lieu de traîner les pieds, l'ONU devrait en revanche appuyer sur l'accélérateur afin d'arrêter le cycle infernal et redonner de l'espoir aux populations civiles congolaises. La tempête tropicale va dans le même sens, brigade spéciale, encore 2 mois. En attendant la mise en place de cette force, le M23 poursuit impunément son aventure criminelle au Nord Kivu, en semant la mort et la désolation parmi les populations civiles. Selon le Phare, Ban Ki-moon annonce que la brigade de l'ONU sera prête d'ici 1 à 2 mois. Vu ce qui se passe, je pense que nous devons accélérer le déploiement des soldats de la brigade pour qu'ils soient pleinement à pied d'œuvre le plus tôt possible, avait déclaré mardi Ban Ki-moon depuis le Mozambique. Mercredi, l'ambassade de France à Kinshasa avait plaidé pour un déploiement dans les meilleurs délais possibles. Parlons à présent du projet Grand Inga. Forum des Astitres, Inga 3, la vérité sur les ateliers de Paris et le quotidien de poursuivre que pour l'aboutissement de ce projet à l'horizon octobre 2015, le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité entend jouer la carte de la transparence. Confusion autour du projet Grand Inga, c'est le titre à la une du journal Le Potentiel qui précise que c'est à Paris, loin de Kinshasa, que le gouvernement a choisi de conclure le week-end dernier l'accord portant mise en œuvre du projet hydroélectrique Grand Inga. Sans tambour ni trompette, pourquoi le gouvernement joue-t-il au cachotier? Y aurait-il des intérêts que les signataires ne voudraient pas révéler au grand public? Ainsi s'interroge le confrère, tout en précisant dans un autre article que sur les 4800 MW de la puissance produite à Inga 3, 2500 MW iront à l'Afrique du Sud.
Merci Alain Irung. Un petit commentaire, Marcel Ngoï, vous êtes éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi l'organisation de l'Unité africaine, actuellement Union africaine, qui fête son 50e anniversaire demain samedi. Elle a été créée le 25 mai 1963 par 32 chefs d'État africains.
Oui, bon anniversaire au président africain qui chaque fois se retrouve autour de cette organisation. Même si cette organisation aujourd'hui pose problème en termes d'efficacité, en termes de prise en charge des problèmes qui concernent les États africains, donc ça paraît aujourd'hui comme un grand syndicat de chefs d'État africains. C'est une sorte de moziki qui leur permet de se rencontrer. Et bon, au fond, nous avons une Union africaine qui est encore en quête de sa vraie identité, en quête de ses vraies marques. Parce qu'en fait, on aurait voulu que ça soit une organisation panafricaine qui permet effectivement de résoudre des problèmes. Aujourd'hui, l'Afrique est déchirée par des crises multiformes, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc, nous avons là des défis qui jonchent encore même les sols et qui se mettent sur le chemin de cette organisation panafricaine. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui restent à faire.
Merci Blaise Zainda, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision digitale Congo, émettant depuis Kinshasa. L'Union africaine aura demain 50 ans d'existence. Quel bilan peut-on dresser de cette institution supranationale? Un bilan positif, un bilan négatif ou un bilan plutôt mitigé? Marcel Ngoï a affirmé que ça paraît aujourd'hui comme un syndicat des chefs d'État africains.
Je voudrais un peu aborder dans le même sens que lui. Maintenant, on parle de l'Union africaine seulement lorsqu'il y a des sommets ou des rencontres qui interviennent de manière tout à fait plus ou moins régulière. Mais en soi, on ne sent pas l'Union africaine quant à en ce qui concerne les règlements de plusieurs conflits. Nous pensons que la force d'une organisation continentale comme celle-là devrait intervenir tout simplement en ce qui concernait, par exemple, le maintien de la paix ou le rétablissement de l'ordre public. Mais nous nous en rendons compte que plusieurs problèmes sont récurrents en Afrique. L'Union africaine a du mal à régler ces problèmes-là et nous sommes même obligés de recourir à d'autres organisations plus ou moins mondiales pour trouver des solutions à nos problèmes. Je crois qu'il sera pratiquement une bonne chose pour l'Union africaine lorsque, par exemple pour les 100 ans, j'ose le croire, que l'Union africaine pourrait dire par exemple que grâce à sa force de maintien de la paix, on a su résoudre 4 ou 5 problèmes, ce serait une bonne chose, mais pour le moment je parle d'un bilan plus ou moins à mitiger.
Alain Tchouma, vous êtes directeur des rédactions de la radio Kivu 1, émettant depuis Goma au nord Kivu. Un mot par rapport aux 50 ans de l'Union africaine.
Je souhaite d'abord bonne fête à l'Union africaine, cet enfant qui est né, qui a aujourd'hui 50 ans. Mais je me dis que cet enfant est resté enfant malgré ses 50 ans d'âge. L'Union africaine, depuis qu'elle est née jusqu'à aujourd'hui, quel est le bilan qu'elle peut nous donner? Nous avons eu tant de guerres en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Libye, au Mali, en République démocratique du Congo et j'en passe. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait dans toutes ces guerres? Je ne vois pas vraiment l'existence de l'Union africaine et je crois peut-être qu'elle peut avoir honte de fêter cet anniversaire parce que je ne vois pas quel bilan cette organisation qui a plus de 50 pays a déjà fait. Le Congo aujourd'hui a un problème très sérieux. L'Union africaine ne connaît rien. Elle ne pense rien, elle ne conçoit rien pour trouver une solution. L'accord d'Addis Abeba, qui devrait nécessairement faire avoir à ce que l'Union africaine intervienne directement pour le problème, il faudra que les Nations Unies s'impliquent, il faudra que les grandes puissances occidentales s'impliquent. Je ne vois pas vraiment l'essence de l'Union africaine, et moi, si j'étais parmi les décideurs, je devrais dire qu'on la dissout et qu'on laisse tomber que chaque pays part directement. Parce que cette ingérence, premièrement, de la communauté internationale dans les affaires internes de l'Union africaine ne prouve à suffisance que l'Union africaine a un rôle à jouer.
Merci.
Et nous regrettons d'ailleurs parce qu'au moins Muammar Kadhafi avait déjà une idée dans ses cases, malheureusement foutu directement par les problèmes de guerre dans ce pays, là, n'est mort. Et je crois que l'Union africaine, avec la mort du président libyen Muammar Kadhafi, je ne trouve pas même l'essence de l'existence de cette Union africaine, que ça s'est dissous directement, mais quand même bonne fête pour cet enfant qui est né 50 ans après, reste toujours enfant.
Alain Tchouma, vous êtes à Goma, Nord Kivu. Quelle est l'actualité qui domine dans cette capitale du Nord Kivu?
Oui, comme vous le savez aussi à Kinshasa, l'actualité qui domine, c'est toujours cette guerre nous imposée par les ennemis de la paix. Vous savez que le M23 et les FARDC continuent toujours à se battre. Et nous sommes en train de perdre une certaine population avec des bombes qui sont larguées de part et d'autre et qui tombent dans les populations. Nous avons perdu les enfants, nous avons perdu des jeunes garçons, deux, il y a plus de 16 blessés qui sont aujourd'hui au soin. Et voilà ce qui règne jusqu'à aujourd'hui. C'est d'ailleurs aujourd'hui que nous voyons que certaines banques ont ouvert, certaines coopératives ont ouvert. Mais pendant tout ce temps, c'était une psychose totale, des stress entre les gens. Et voilà un peu le Nord Kivu, la ville de Goma. Bon, en fait, c'est notre habitude de tous les jours, même si on ne peut pas toujours s'habituer à la souffrance. Mais voilà l'actualité. C'est toujours cette guerre du côté de la colline de Mouta, au Kibati, Kibumba, entre les FARDC et les M23.
Merci. Notre premier thème de ce soir, fin depuis hier jeudi de la visite en République démocratique du Congo du secrétaire général des Nations Unies et du président de la Banque mondiale sur fond des tensions dans le Nord Kivu. Selon Ban Ki-moon, l'objet de sa visite était de soutenir la matérialisation de l'accord de paix signé à Addis Abeba. On l'écoute au micro d'Alain Irung.
Je suis ici pour exprimer notre solidarité avec la population de la République démocratique du Congo. Je suis aussi ici pour l'encourager à ne pas renoncer à l'espoir. L'objectif de ma visite conjointe avec le président de la Banque mondiale, Kim Yong-kim, en République démocratique du Congo, au Rwanda et en Ouganda, est de soutenir la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région qui a été signée à Addis Ababa le 24 février par ces trois pays et huit autres. L'objectif est aussi de montrer les bénéfices de cet accord pour la population en termes de paix. Le 26 mai, je vais convoquer une réunion pour évaluer la situation selon l'accord cadre de la paix, sécurité et coopération en RDC avec mon envoyé spécial Madame Mary Robinson et mon représentant spécial Monsieur Miss.
Le secrétaire général des Nations Unies et le président de la Banque mondiale sont arrivés hier jeudi dans l'après-midi à Kigali. Avant la rencontre avec le président Paul Kagame, le patron de l'ONU a visité un village qui accueille une trentaine d'anciens combattants blessés de guerre et leurs familles issues de divers camps s'étant affrontés au Rwanda. Avant l'étape de Kigali, Ban Ki-moon a notamment animé une conférence de presse à Goma. Il a à cet effet déclaré que la brigade d'intervention de l'ONU sera prête d'ici un à deux mois. À travers cette brigade, les Nations Unies vont plus loin pour imposer, si nécessaire, la paix, d'après le numéro 1 de l'ONU. Pour ce faire, les Nations Unies ont misé toujours, selon Ban Ki-moon, sur la qualité des effectifs qui formeront cette brigade, ainsi que sur les équipements. On écoute le patron de l'ONU dans ses propos recueillis par Denise Lukeso.
Cette fois-ci, nous allons au-delà du mandat traditionnel des opérations de maintien de la paix. Le mandat est particulier parce qu'il veut imposer la paix lorsque c'est nécessaire, c'est-à-dire avoir une approche proactive vis-à-vis de la paix pour imposer cette paix. C'est la raison pour laquelle nous avons un équipement robuste, des troupes très bien formées de ces quelques 3000 soldats. Et je crois qu'avec ces troupes, nous serons en mesure de redresser la situation dans la région. Nous allons diligenter nos efforts visant à déployer cette brigade d'intervention. Elle sera déployée le plus rapidement possible. Le premier commandant a déjà été nommé. Je crois qu'il est déjà présent ici. Le président sud-africain a promis d'envoyer ses troupes rapidement. Et même si cela ne prendra pas trop de temps, je ne puis pas vous donner une date précise quant à la date d'opérationnalisation de ces troupes. Peut-être dans les deux mois. En tout cas, ceci sera décidé par le commandant et le département des opérations de maintien de la paix, ainsi que par M. Roger Miss, le représentant spécial. C'est eux qui vont coordonner tout cela.
Marcel Ngoï, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Prospérité. C'est un journal, c'est un quotidien qui part ici à Kinshasa. Ban Ki-moon a clôturé son séjour en République démocratique du Congo dans une situation particulièrement difficile, caractérisée par la reprise des hostilités au Nord-Kivu entre les FARDC et la rébellion du M23.
Oui, il y a guerre, reprise des hostilités autour de Goma, à Mutao. C'est une manière pour le M23 de se faire entendre, mais le M23 n'est pas seul. Le M23 agit avec le concours bienveillant d'un État signataire de cet accord cadre. J'ai cité le Rwanda. Les populations civiles, la société civile dénoncent l'appui matériel, l'appui logistique, l'appui humain en termes d'éléments d'élite de l'armée rwandaise aux côtés du M23. C'est déjà là le problème fondamental de cet accord cadre qui n'a pas prévu de mécanisme de sanction, de mécanisme de punition pour les États signataires qui ne pourraient pas respecter les termes de cet accord. Ils sont 11 ces États-là qui ont signé. L'un des présidents d'un des États a dit en marge de son séjour à Londres, que cette brigade, la brigade envisage au thème qui est prévu au thème de cet accord, la brigade d'intervention, qu'il est convaincu que cette brigade va échouer. Parce que pour lui, c'est le volet politique, c'est le volet de pour parler avec le M23, par exemple, qu'il faut matérialiser. Donc ce sont là les failles de cet accord cadre. Et je crois que c'était prévisible, pour autant que cet accord n'a pas été une initiation congolaise. C'est une démarche de Ban Ki-moon, c'est une démarche en réponse à nos pleurs, aux pleurs des Congolais. Tout ceci arrive parce que nous avons parallèlement une faiblesse ici au niveau de nos services. Et cet accord prévoit aussi une dimension importante qu'on a appelée des grandes réformes. Des réformes des services de sécurité, des réformes au niveau de l'armée.
Là, ce sont les engagements que
les engagements souscrits, oui. En ce compris les dialogues politiques et la dimension liée à la réconciliation. Et donc, tout au long de son séjour, Ban Ki-moon a plus insisté sur les engagements pris. Il a même dit que l'accord cadre devrait être appliqué dans sa globalité. Mais oui, mais en insistant, bien sûr, sur le pourparler qu'il faut, notamment tenir, finaliser Kampala, mais il n'a pas beaucoup insisté sur, en fait, la coercition qu'il faut exercer sur les États qui violent les termes de cet accord.
Merci. Blaise Aïnda, l'accord cadre signé à Addis Abeba pose un problème du fait qu'il n'a pas de caractère coercitif. Apparemment, on s'en tient à la bonne foi des États signataires.
Je crois qu'il a été mis en place un mécanisme pour s'assurer de l'exécution, ou plutôt de l'application de plusieurs résolutions prises lors de cette signature-là. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, au niveau national, il a même été créé un comité de suivi de l'accord cadre qui est présidé par François Mwamba, ancien ministre du budget. Et je crois qu'il est maintenant question pour les Nations Unies de passer à l'acte. C'est vrai, on a mis en place la brigade spéciale qui devrait, sauf imprévu, commencer d'ici un ou deux mois. Mais il faudra non plus ne pas oublier le fait que les Nations Unies se sont impliquées, à côté de la France, impliquées pour que nous puissions arriver à des solutions beaucoup plus concrètes. En ce qui concerne, par exemple, la convocation de la première réunion de Ban Ki-moon aux États-Unis entre Paul Kagame et le président congolais Joseph Kabila, une réunion qui a accouché d'une souris, on le sait, nous tous, dans la presse ici. Et puis le 26 mai, on va évaluer quoi? Peut-être dénombrer les 800 personnes qui sont arrivées à Goma, provenant de la Tanzanie et tout ça.
Et aussi l'application de cet accord par les différents pays signataires.
Bon, déjà, on peut dire que le bon côté, en ce qui me concerne, de cet accord, c'est le fait que, par exemple, le Rwanda soit retrouvé dos au mur en ce qui concerne l'extradition de chefs de guerre ou je ne sais pas quoi, puisque le Rwanda n'étant pas signateur du traité de Rome, il lui était pas tout à fait facile d'extrader certains chefs de guerre. Mais il est dit qu'aucun de pays signataires, par exemple, ne peut contenir en son sein un chef de guerre ou quelqu'un poursuivi d'un quelconque crime. Mais si vous le permettez, Guy, je voudrais d'abord exprimer toute ma compassion et toute ma fraternité aux populations de Goma, de la province du Nord Kivu. Mais tout simplement, c'est vrai, on demande à ce que l'on puisse réorganiser nos forces. C'est parce que nous sommes arrivés à une situation où on ne sait pas comment est-ce que le M23 pourrait peut-être revenir à Goma une fois. On voudrait bien entendre ça, par exemple, que, en attendant la mise en place de cette force-là, l'opérationnalisation de la force, que les Nations Unies nous disent que cette fois-ci, nous allons mettre tous les moyens en jeu pour que la ville de Goma ne retombe plus entre les mains des rebelles du M23, par exemple.
Et vous pensez que les dispositions ne sont pas prises pour que cette ville ne puisse pas tomber entre les mains du M23?
Jusque-là, ce que je sache, les dispositions sont prises par les forces armées de la République démocratique du Congo, parce que quand ça a commencé, le M23 était plus ou moins une dizaine de kilomètres de la ville de Goma. Et maintenant, avec tout ce qu'il y a eu comme échange, ils sont à Kibati, et c'est beaucoup plus loin, à 15 kilomètres, je crois. Mais il faudrait que les Congolais ne puissent pas dormir sur leur laurier, parce que ce sont nos frères qui sont en train de mourir, des obus qui tombent. On doit, cette fois-ci, contre-attaquer autrement.
Et à votre avis, s'il faut parler de l'attitude du M23, comment peut-on comprendre cette attitude qui consiste à déclencher les hostilités, alors qu'officiellement, le M23 est toujours pour parler avec le gouvernement congolais, même si dans les faits, il n'y a plus de plénière, mais officiellement, ils sont en pour parler. Et ils choisissent les moments où Ban Ki-moon, le président de la Banque mondiale, arrive au Congo pour déclencher ses hostilités. Comment peut-on comprendre cette attitude du M23?
Je veux dire que malheureusement, je suis en train de relever une identité tout à fait similaire entre les attitudes du président Paul Kagame instigateur justement du M23 et les attitudes du M23. Donc il n'utilise que la même attitude. Vous le savez, le véritable problème du M23, c'était l'opérationnalisation de la force, donc la mise en place de la brigade spéciale. Dès que la brigade spéciale a été mise en place, l'M23 a repris les armes. On oublie un élément révélé par la presse il y a de cela un mois. Le M23 dispose des armes comme les missiles sol-air que, en tout cas, l'armée congolaise n'a pas. Il faudrait qu'on nous dise d'où viennent ces armes. Là, on le sait. On connaît les appendices du M23, donc il est maintenant temps que tout le monde, que nous ne nous en tenons pas seulement à l'accord cadre, à un papier et tout ça, que nous allions maintenant dans les faits. C'est ce qu'attend la population congolaise, qu'il y ait des faits probants qui vont mettre en déroute toutes les forces négatives dans la partie est du pays.
Merci. Anne Chouma, vous êtes à Goma, au nord Kivu, où les hostilités ont repris entre le M23 et les FRDC. Et à votre avis, y aurait-il un lien entre la visite de Ban Ki-moon en RDC et la reprise des affrontements dans cette province?
Merci beaucoup. Je crois que, premièrement, je dois féliciter ce risque qu'a pris Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, pour venir ici en RDC, précisément à Goma, où c'est pas tous les jours et tout le temps des problèmes d'atrocité, des guerres, et surtout qu'il est venu dans les crépitements des balles, il faut dire, dans ce cadre. C'est bien que, de cette façon, je loue beaucoup plus encore son courage. Mais je demande si Ban Ki-moon médite à un certain moment par rapport à la crise qui s'écoule de la RDC, lui en tant que secrétaire général des Nations Unies. Est-ce qu'il sent vraiment la honte en lui quand pendant 12 ans, vous avez 17 000 casques bleus ici au nord qui vous et que vous revenez dans cette province toujours dans les mêmes problèmes que vous avez toujours cherché solution pendant 12 ans? C'est une question que je crois peut-être qu'il serait mieux qu'il se pose en tant que secrétaire général des Nations Unies. Et ce n'était pas aussi heureux pour lui.
Alain Chouma, vous savez que les mandats des casques bleus des Nations Unies ne leur donnaient pas assez de marge et de manœuvre pour, n'est-ce pas, intervenir dans toutes ces situations de guerre.
C'est là où je suis en train d'aller. Je me dis, il vient à Goma, dans les crépitements des balles, sous une grande surveillance, dans un pays où il fait déjà 12 ans que ces militaires sont à l'intérieur pour trouver des problèmes de maintien de la paix dans cette province. Ce n'est pas quand même bon. Je ne dirais pas que c'est un échec pour Ban Ki-moon pendant son règne que les groupes armés se multiplient au jour le jour en province du Nord Kivu. Mais aussi, l'accord cadre a été signé à Addis Abeba. Ban Ki-moon est venu ici, nous l'avons accompagné dans sa conférence de France qu'il a tenue d'ailleurs aussi chez nous, où nous avons aussi posé des questions sur le problème qui guette la RDC. Une question que j'ai posée à Ban Ki-moon était de savoir qu'est-ce qui manque aux Nations Unies aujourd'hui de demander au M23 de disparaître totalement. Est-ce que vraiment on va dire que l'M23 est plus fort aujourd'hui que les Nations Unies, pour que nous allons dans des litanies, dans des liturgies, pour trouver une solution à un problème qui guette un territoire de la République démocratique du Congo avec plus de 2 345 000 km², en présence des Nations Unies, en présence des troupes de la brigade d'intervention des Nations Unies, en présence de l'Union africaine ici. Voilà une question que je pose de temps en temps, savoir est-ce qu'il y a une complicité dans ces cadres. Parce que l'accord cadre de Tahir demande quoi? Que les pays signataires, qui sont 11, aucun de ces pays n'a plus le droit de s'y porter ou bien de garder dans son territoire des rebelles qui fracassent la quiétude de la population et qui violent l'intégrité territoriale. Mais aujourd'hui, les deux pays qui sont toujours cités dans ces cadres, le Rwanda et l'Ouganda, et c'est pas moi qui les cite d'ailleurs, ce sont les mêmes experts des Nations Unies, les mêmes experts de Ban Ki-moon qui viennent, qui constatent que il y a le Rwanda qui menace la paix en RDC. Il y a l'Ouganda qui menace. Et aujourd'hui, aucune sanction n'a été proposée dans ces cadres.
Merci. Marcel Ngoï, c'est vrai, beaucoup de questions se posent au sujet du comportement du M23. Est-ce que ces mouvements rebelles est plus puissant que la communauté internationale? On parle du Rwanda qui appuierait le M23. Le Rwanda qui est lui-même membre de cette communauté internationale. Est-ce que le Rwanda a intérêt à défier cette communauté internationale? On parle des différents rapports des experts indépendants des Nations Unies, n'est-ce pas, qui attestent l'appui du Rwanda au M23, mais en dépit de ces rapports, il n'y a toujours pas de sanctions de la part de la communauté internationale contre le Rwanda. Voilà toutes ces questions que l'opinion se pose.
Oui, mais c'est ça. L'opinion se pose ces questions, vous le dites si bien. Il faudra peut-être que le Congo devienne la Syrie.
Évidemment, c'est pas la même chose. Hein.
Évidemment, c'est pas la même chose. C'est une figure de style pour vous faire comprendre que on attend seulement qu'il y ait pourrissement de la situation. Lorsqu'on parle de pogrom, c'est-à-dire des génocides. À ce moment-là, on a de quantités, des hectolitres de larmes à verser. Est-ce qu'il nous faut être si pessimistes pour envisager, projeter des fatalités devant nous pour qu'un jour, qu'on mérite un peu plus? C'est comme quand on parle d'un milliard que M. Jim a amené.
Le président de la Banque mondiale.
Un milliard pour la région des Grands Lacs. Un pays comme celui-ci, un milliard. Une région comme celle-là, déchirée,
mais
un
milliard. Mais c'est mieux que rien.
Mais c'est mieux que rien, mais c'est la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale. Lorsqu'ils vont au Mali où la France est allée, qu'est-ce que la France a amené au Mali? Vous avez vu l'intervention française, elle coûte combien? Pour aujourd'hui, pour renverser un beau jour, renverser Saddam Hussein, vous savez combien les Américains avaient investi?
Voyons comment la presse a évoqué ce genre de situation. Le quotidien Forum des As qui note que dans les Grands Lacs, le secrétaire général de l'ONU est obligé de souffler le chaud et le froid. Et il se pose la question de savoir si Ban Ki-moon va opter pour l'usage de la force ou la solution politique. Et à cette question, apparemment, votre journal, La Prospérité, il a donné la réponse. Hein. Vous dites, vous précisez qu'avec la brigade d'intervention de l'ONU, Ban Ki-moon va imposer la paix à l'est de la RDC.
Oui, il l'a dit. Il a dit que, en fait, le mandat actuel de cette brigade est un mandat offensif et c'est une première pour les forces de maintien de la paix qu'on puisse doter à une brigade, fut-elle incorporée à la MONUSCO, mais une brigade spéciale avec un mandat offensif. Ça, il a dit. Et il dit que c'est la solution ultime. Le recours à la force, c'est la solution ultime.
Voilà.
Mais le problème, c'est qu'il y a une question de temps. La MONUSCO elle-même, le mandat a été prorogé pour une durée d'une année. Donc d'ici 2014, la brigade d'intervention a une durée de vie limitée, qui est limitée.
D'une année aussi.
Donc on a l'impression que une fois qu'on va s'appuyer sur cette brigade, on aura résolu des problèmes de guerre récurrente dans l'Est de la République. Et pourtant, le temps est limité, l'espace aussi. La brigade a une mission dans le Kivu et dans une portion du territoire de la province orientale. Donc ce n'est pas forcément sur l'ensemble du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les forces négatives peuvent se réserver le droit de se déplacer, d'aller au-delà de cet espace-là. Donc ça veut dire que les forces-là, devenues disparaître, peuvent prendre un peu plus de temps et devenir une distraction pour la nation et pour le
et
monde.
Et donc dans la faisabilité, ça sera difficile.
Mais comment difficile? Lorsque vous avez des frontières qui sont poreuses, lorsque vous avez une forêt étoilée...
Non, je disais difficile les opérations de cette brigade d'intervention contre les
oui,
forces
mais
négatives.
Le problème...
Dans
les faits, ça ne sera pas facile parce qu'en fait, si on n'a pas su, si le RCD Goma a quitté l'Est jusque dans le centre, au Kasaï, sans attraper les F de l'air, je m'imagine ce qui peut arriver aujourd'hui avec... Non, pas un seul groupe armé. L'M23 n'est pas l'unique groupe armé.
Merci.
Ils sont une cinquantaine qui opèrent.
Merci.
Et ce n'est pas facile.
Blaisaïnda, la brigade d'intervention aura un mandat d'une année. Mais entre-temps, la RDC doit travailler sérieusement pour se doter d'une armée. Et vous pensez que dans un espace d'une année, on sera en mesure de se doter d'une armée à même de défendre les populations, de défendre les frontières nationales?
Je pense que, comme je l'ai toujours signifié plusieurs fois, la brigade spéciale ne doit venir qu'en complément. Donc c'est une brigade qui doit venir en suppléance, un élément d'appoint. Il faudrait que, en une année, certes, je ne suis pas expert militaire, je pense qu'il est pratiquement impossible à ce que l'on puisse, en une année, refaire l'armée.
Il y a des experts militaires qui pensent que s'il y a de la volonté, n'est-ce pas, s'il y a de la détermination, en 6 mois, on peut être en mesure d'avoir une force capable de défendre ces pays.
Mais ces experts militaires-là, ont-ils déjà eu affaire à un pays où il y a des gens que l'on intègre dans l'armée et puis quelques jours après ou quelques mois après, ces mêmes personnes-là vont contre cette même armée-là? C'est une situation plus ou moins délicate. C'est ce qu'on est en train de vivre en République démocratique du Congo. Je crois qu'il faille, il est maintenant question, d'abord pour les deux provinces du Nord et du Sud Kivu, que les fils et les filles de ces provinces-là se mettent ensemble pour que puissent d'abord cesser les petits groupuscules d'hommes armés faisant partie de telle communauté ou de telle autre, que nous trouvions d'abord la paix nous-mêmes. Ainsi donc, quand on est divisé, il nous sera difficile de faire face au Rwanda. Or, si nous sommes unis, très facilement on pourra mater un pays comme le Rwanda. Et je voudrais revenir à la préoccupation qu'avait émise, que vous aviez émise, Guy, à l'endroit de Marcel. Est-ce que le M23 est-il à même de faire face à la communauté internationale? On disait la même chose en Somalie. Donc il n'est pas tout à fait, il n'est pas dépassé d'affirmer qu'il est aussi possible que les forces qui vont venir intégrer la brigade spéciale puissent avoir du mal à mater les M23. Mais il faudrait maintenant qu'on lève, par exemple, il y a des questions que l'on doit poser. Pourquoi continue-t-on à garder l'embargo sur les armes qui pèsent sur la République démocratique du Congo? Il faudrait que l'on donne aussi l'opportunité
de lever les fonds de pays. Est déjà levé.
Vous le dites officiellement, mais dans les faits. Zéro.
Alain Touma, tous les espoirs sont focalisés sur le déploiement de cette brigade d'intervention.
Bon, je crois bien que l'intervention de la brigade, nous sommes en train de voir certains Tanzaniens qui sont déjà sur place ici, qui circulent, ils sont encore dans les alimentations pour acheter quoi à manger. En attendant peut-être que les Sud-Africains arrivent, comme Ban Ki-moon nous a rassuré que le président sud-africain a déjà donné la permission pour un déploiement rapide de ces militaires pour peut-être aussi ajouter sur le nombre de Tanzaniens que nous avons ici. Mais cette brigade sera constituée de 3069 militaires. Mais moi je pose la question, 3069 militaires vont faire face à combien de groupes armés au même moment? Nous avons le M23, nous avons les ADF Nalu, nous avons le LRA, nous avons le FDLR, nous avons le Mai Mai Tchika, Mai Mai Iler Kombi, Mai Mai Tchikuku, Mai Mai
Flapontaine, Mai Mai
APCL. Il y a plusieurs groupes armés ici au Nord Kivu, c'est peut-être pour donner le nombre, j'aurais peut-être à consommer toutes les minutes possibles qui sont réparties. Je me dis, cette brigade, qu'est-ce qu'elle va faire de mieux? Je me pose des questions. Encore quel pays? Vous avez les Tanzaniens. Ça fait beaucoup de temps que nous attendons la Tanzanie dans les guerres. Vous amenez le Sud-Africain qui a été bâti d'ailleurs à un certain moment en Centrafrique, c'est un élément récent, c'est une période récente que nous avons. Vous amenez le Malawi, bon, le Malawi d'ailleurs, c'est rare des fois que je trouve sur Internet. Mais je pose des questions. Est-ce que pour imposer la paix, il faudra attendre combien de temps cette brigade qui vient à pas de tortue?
Allez,
il manque à la Tanzanie un avion, un engin qui va amener tous les 1200 militaires qui doivent être ici au même moment via deux rotations.
Allez, Touma, n'oubliez pas. Allez, Touma.
Qui vont venir d'un moment à l'autre.
Allez, Touma.
Le Malawi ne les manque. Mais nous pouvons attendre combien de temps? Oui, je vous écoute.
Et n'oubliez pas qu'à côté de cette brigade, il y a les FRDC qui sont là.
Mais les FRDC sont déjà en plein travail. Mais nous sommes en train de vivre la guerre ici. Pendant les 5 jours que nous sommes ici. Mais les FRDC combattent, ils se comportent bien sur le terrain. Le M23 a tenté de prendre la ville de Goma, ça fait plus de 5 jours.
Merci.
Mais ils sont des bandages. Ils ne savent plus quoi faire. Mais je crois peut-être qu'ils sont conseillés, sont faits demander. Est-ce que ce sont les mêmes FRDC que nous avons sur terrain qui combattent toujours? Et pourtant, ce sont les mêmes FRDC. Sauf que peut-être, nous remercions d'ailleurs le gouvernement et le ministre de la Défense, ainsi que le chef d'état-major, pour avoir enlevé tout ce qui était considéré comme traître pour accompagner les FRDC sur la ligne de front. Voilà que nous comprenons très bien.
Merci Alain.
Il faut vraiment attendre la brigade. S'il vous plaît, confrère. Moi, je crois qu'il serait mieux aussi de se rappeler, de lire les signes des temps, mais aussi se rappeler un peu l'histoire, parce que c'est ce qui nous permet aussi de voir l'avenir. L'ambassadeur russe en République démocratique du Congo, il y a quelques mois, il a dit, si les FRDC, si les Congolais pensent peut-être trouver solution grâce à la communauté internationale, vous vous tromperez. Et je crois que c'est sûr. Est-ce que vraiment cette communauté internationale a besoin que la paix revienne ici? Le déploiement, les FRDC sont toujours à l'œuvre. Les droits est en train de menacer pour un...
Merci Alain Touma, on a compris. Merci. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. La République démocratique du Congo annonce le début de la construction en 2015 d'une centrale hydroélectrique la plus grande du monde à Inga sur le fleuve Congo. Baptisée Grand Inga, cette centrale qui sera construite en collaboration avec l'Afrique du Sud aura une capacité de production de 40 000 MW capable de desservir la moitié de l'Afrique en électricité. Une réunion recoupant les différents acteurs impliqués à ces projets, y compris la RDC, a eu lieu le week-end dernier à Paris, en France. On écoute le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Bruno Kampanji, qui donne quelques détails au micro de Innocent Olenga.
Le programme donné au gouvernement à réaliser consiste à réhabiliter ce qui existe déjà. Inga 1, Inga 2, Zongo 1, tout ça. Ces travaux sont en cours. Mais ça consiste aussi à construire de nouvelles infrastructures parce que celles qui existent ne donnent que de l'électricité qu'à 9% de la population. Il faut construire de nouvelles pour satisfaire la demande des industries, la demande des populations, la demande de l'administration. C'est pour ça qu'il y a Zongo 2, il y a Katende et il y a Kakobola. D'autres vont encore venir dans le cadre de la libéralisation du secteur de l'électricité. Donc, ce n'est pas qu'il trop embrasse. Maintenant, Inga vient. Pourquoi? Inga, c'est vraiment notre plus grand fournisseur de ressources durables dans notre pays. Surtout que nous avons un acheteur stratégique qui est l'Afrique du Sud dans le traité de coopération énergétique avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud s'est engagée à acheter sur la première phase de Grand Inga, c'est-à-dire Inga 3, sur les 4800 MW à produire, l'Afrique du Sud s'est engagée à acheter 2500 MW. Les 2300 qui restent, c'est pour nous. Ça va servir le développement de notre pays. Maintenant, concernant le coût de Grand Inga, à terme, va atteindre à peu près 80 milliards de dollars.
Blaise Zainda, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision Digital Congo, émettant depuis Kinshasa. Et comment analysez-vous ce projet du Grand Inga?
Je suis en train de me dire que peut-être que Innocent Olenga a posé la bonne question. On dit qu'il trop embrasse mal les trains, apparemment. On parlait des Inga 3. Il y a un projet qui demandait, je crois, 21 millions de dollars, ne fût-ce que pour d'abord les études préliminaires. Et maintenant, on va directement à la faisabilité pour Grand Inga, qui est un autre projet. Entre-temps, on n'a même pas encore donné du courant à toute la population congolaise. Déjà ici, à Kinshasa, on a du mal à disposer d'énergie électrique. Est-ce qu'on se demande s'il est mieux pour une maison d'abord de nourrir les voisins qui viendront acheter les peu de provisions que l'on a fait, ou d'abord de commencer à donner de la nourriture à ceux qui habitent la maison? C'est ça la grande question. Je pense que ce projet serait les bienvenus, à mon humble avis, si d'abord nous arrivions à donner du courant à toute la population congolaise, où qu'elle soit, tous les milieux urbains, si ces milieux-là sont suffisamment alimentés. De Inga, on peut pratiquement donner du courant à la ville de Beni, qu'attendre que l'Ouganda puisse donner du courant à une ville de Kassindi ou à Beni, par exemple.
Le ministre Bruno Kapanji dit que les centrales que nous avons n'arrivent pas à desservir toute la population. Ces centrales ne desservent que 9% de la population. C'est pourquoi il faut renforcer, il faut construire de nouvelles centrales. Et d'où l'opportunité de la construction des grands Inga.
Alors justement, quand on est en train, j'aurais voulu poser la question au ministre de l'énergie. Est-ce que ces centrales fonctionnent à 100%? C'est ça la grande question. Est-ce que Inga fonctionne à 100%? Est-ce que la centrale que nous attendons au Kassai Occidental fonctionne déjà, le barrage à Kakobola ou même ici dans le Bandundu? Il y a aussi un autre barrage qui ne fonctionne pas encore. Faisons d'abord fonctionner à plein régime ces centrales-là, puis on se posera la question sur les pourcentages de nos populations congolaises.
Il y a des experts qui pensent que même si on réhabilite toutes ces centrales-là, elles ne seront pas en mesure, n'est-ce pas, de satisfaire les besoins en électricité en République démocratique du Congo, qui sont évalués à 8000 MW.
Et la solution serait, de toute manière, vous avez dit au départ que ce sera 4000 mégawatts. Inga, ce sera combien de...
40 000 mégawatts.
40 000, ah ok. Ouais. Et l'Afrique du Sud prendrait combien?
Avec la première phase, c'est dans le 4000 mégawatts, et l'Afrique du Sud pourrait prendre 2500 mégawatts.
Voilà. Donc ça, c'est la première phase. Donc même en terminant Inga avec la première phase, on ne sera même pas en mesure de donner du courant à toute la population congolaise. Ça, c'est l'évidence.
Marcel Mouy, vous êtes éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Le coût de Grand Inga à terme va atteindre environ 80 milliards de dollars américains. Et évidemment, ça, ce sont les estimations des experts.
Des estimations, mais qui sont confirmées de sources officielles par le ministre. 80 milliards. Mais le budget du Congo est de combien? Quel est le coût de remboursement de ces 80 milliards? Comment la République qui s'engage à cette hauteur-là vis-à-vis de l'Afrique du Sud pourrait-elle rembourser cet argent, 80 milliards? C'est ça la question. Et puis, toujours comme toujours, on prend des engagements comme ça, et puis un jour, on n'est plus là-bas, et puis ce sont d'autres qui doivent. Ça devient une dette à verser toujours sur le dos du peuple ou du contribuable congolais. Je suis en train de dire ceci. Nous avons Inga. Inga, comme on a dit, la capacité installée des barrages existants pouvait bien permettre de résoudre ces problèmes. On a connu des grands projets avec Mag Energy. Il y a eu des consortiums
d'autres consortiums qui sont venus bien avant pour tenter de finaliser la mise en mouvement de toute la capacité installée des barrages existants. Là, nous avons un projet où on abandonne les barrages existants, on veut en créer ou en fabriquer d'autres à des coûts prohibitifs. C'est comme quand on parle de la création d'une nouvelle société d'exploitation des lignes aériennes. On veut créer, on laisse l'acte pour créer une autre. C'est comme quand, à un moment, on a abandonné certains projets importants.
Vous pensez que c'est la même chose?
Oh, c'est un peu la technique ici chez nous.
Parce que si Grand Inga, n'est-ce pas, va être utilisé pour exporter les courants et permettre donc à la RDC de se faire beaucoup de devises.
Je ne suis pas en train de minimiser le projet, mais j'ai dit tout simplement qu'il faut en mesurer l'opportunité et faire évaluer les capacités que l'on a de rembourser. Il ne faut pas continuer à s'endetter continuellement. On s'endette en Chine, on s'endette en Afrique du Sud, on s'endette partout, et après, on revient à la case départ. Non, nous avons un problème ici chez nous, c'est la relance de l'économie, la relance de la production. Et celle-ci transite, comme on l'a dit, par l'agriculture, par notre environnement qu'il faut exploiter, la forêt équatoriale qui est vierge toujours, malgré qu'on attrape les bois congolais à l'étranger qui est sorti frauduleusement. Donc nous avons un pays où des ressources existent, des lacs sont toujours poissonneux, le fleuve est toujours là, les montagnes peuvent servir de tourisme, donc nous avons des parcs à réhabiliter. Et donc nous disons, revenons au sujet électricité. Je soutiens personnellement l'idée de la libéralisation du secteur de l'électricité. Et c'est par là qu'il faut peut-être qu'on puisse commencer. Parce qu'à ce moment-là, on ouvre le secteur à la concurrence et la société qui peut mieux offrir peut. Et que la compagnie nationale, transformée aujourd'hui en société commerciale, puisse s'endetter aujourd'hui, alors qu'on n'a jamais enregistré ce qu'on appelle la recapitalisation de la SNEL, et qu'on puisse investir sur fonds extérieur sur base d'un endettement nouveau, il faut en évaluer le coût des remboursements.
Merci. Alain Touma, je rappelle que vous êtes directeur des rédactions de la radio Kivu 1, mettant depuis Goma au Nord Kivu. Il y a opportunité, c'est ce que Blaise Aïnda et Marcel Ngoï ont affirmé, il y a opportunité, mais il ne faudrait pas que l'on continue à s'endetter parce que les coûts globaux, n'est-ce pas, pour l'édification de cette centrale, est évalué à 80 milliards de dollars américains.
Moi, je me dis à un certain moment, la politique congolaise de la gestion du pays, c'est dans quelle situation nous sommes. Notre gouvernement doit quand même être beaucoup plus sérieux. Nous avons beaucoup de projets, beaucoup encore. Nous avons des 5 chantiers, nous avons eu la révolution de la modernité, nous avons eu la vision XXYY. Mais jusqu'à aujourd'hui, quel est l'impact positif par rapport à toutes ces visions que nous avons? Le Congo devient de plus en plus très idéaliste qu'est pragmatique. Aujourd'hui, c'est Inga. Avec plus de 80 milliards de dollars qui doivent être mis en œuvre, vous imaginez. Et le projet a 54% de pays étrangers, l'Afrique du Sud, qui doit bien sûr investir. Mais moi, je me dis, est-ce qu'il ne serait pas d'abord mieux de chercher à trouver d'abord solution à un problème et ne pas avoir plusieurs problèmes pour peu de solutions? Mais terminer d'abord la guerre de l'Est de la RDC. Parce que les 80 milliards de dollars que les Sud-Africains vont mettre ici, au cas où les contrats tombent caducs, ou à un certain moment il y a des problèmes entre nous, qui va encore payer ça? Si ça ne sera pas encore la guerre qui va tomber entre la province du Katanga et la République Sud-Africaine. Nous avons des problèmes aujourd'hui. L'Angola qui est là, le Zimbabwe, la Namibie, mais tous ces gens, avec tous les projets que nous avons, tous les contrats que nous signons ensemble avec ces gens. Mais jusque quand, mon Dieu? Le peuple congolais aujourd'hui, avec les 80 milliards de dollars, nous allons les trouver où? Nous qui avons un budget de, je crois, estimable à 8 milliards de dollars, si j'ai bonne mémoire. Mais si on met la sécurité en République démocratique Congo, le peuple congolais est un peuple travailleur. À lui-même, il peut amener ses 80 milliards de dollars et se chercher peut-être des scientifiques, des investisseurs pour venir investir chez nous avec notre propre argent, sans pour autant avoir beaucoup de contrats qui peuvent nous coûter notre cher. Voilà un peu le problème, c'est que nous devons quand même être sérieux à quoi avoir beaucoup de projets à la fois sans pour autant avoir des solutions palpables à la crise et qui s'écoule de la RDC.
Merci. C'est la fin de cette émission. Paul Badianyama était à la technique et Alain Hirung à la réalisation sous la supervision des Pelé Kipela Mondo devant ses micros Guimaté. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.